Parce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment Dieu a fait pour t'aimer, comment Dieu a fait pour que tes yeux s'ouvrent et que tu parviennes à sa connaissance. Comment est-ce que ça s'est passé dans le ciel pour que tu sois sensible à la voix de Dieu et qu'un matin tu dises: Seigneur, j'abandonne tout, je me donne à toi. Quand je regarde à tout ce beau monde dehors, il y a le cœur incrédule qui refuse de comprendre, qui refuse d'accepter ce que Dieu a fait en donnant Jésus-Christ à la croix. Je comprends qu'en ce qui me concerne, il s'agit bien d'un mystère. Et j'aimerais davantage me prosterner et bénir le Seigneur pour son grand amour pour moi. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Est-ce que tu peux dire: Seigneur, ton amour pour moi est grand. Seigneur, tu m'as aimé. Je ne sais même pas comment tu as fait, Seigneur, venir jusqu'à moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je puisse entendre ta voix et que je comprenne le mystère de la croix. Dis: Seigneur, je me rends seulement compte qu'au milieu d'une multitude, Seigneur, tu m'as aimé et tu m'as sorti du lot. Tu as voulu que je sois différente des autres. Tu as voulu me mettre à part afin que je t'appartienne. Dis: Seigneur, je te rends grâce pour ton grand amour pour moi. Je peux aller et venir par ta grâce. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette grâce que toi tu m'accordes. Seigneur, tous les jours je peux avoir de quoi me nourrir. Ce n'est pas donné, ce n'est pas un mérite. C'est parce que tu m'as aimé le premier. Dis: Seigneur, tous les jours je peux voir la solution à mes problèmes. Ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je suis plus grand que les gens, mais c'est parce que toi, tu as décidé, ô Éternel, de te révéler à moi. Et tous les jours, tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Dis: Seigneur, merci pour ta voix qui s'est fait entendre. Merci parce que j'ai entendu ta voix au fond de mon cœur et je me suis donné à toi. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de différent que les autres. J'étais pécheur au même titre que ceux qui sont dans la rue. Mais Seigneur, tu m'as tiré de la boue et tu as voulu que je vienne jusqu'à toi. Bénis encore le Seigneur pour cette saison pendant laquelle il veut te bénir. Dis: Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces quelques jours pendant lesquels tu as décidé de me visiter. Merci Seigneur, parce que ce communiqué a été proclamé ici. Tout Amja a entendu ce qu'il y avait à faire cette semaine. Mais Seigneur, plusieurs ont fermé leurs oreilles à ton appel. Mais en ce qui me concerne, Seigneur, tu as donné à mon cœur d'être sensible et de répondre à ton invitation chaque soir. Dis: Seigneur, je te bénis pour ce soir. Je te bénis pour ce soir où je suis là. Je te bénis pour ce soir où tu m'as encore attiré à toi. Je te bénis parce que tu as quelque chose de formidable à faire dans ma vie. Et je loue ton nom parce que tu as déjà accompli ce que tu avais pensé accomplir pour moi. Merci Seigneur, parce que quand tu m'attires à toi, Seigneur, il y a des bénédictions qui accompagnent ma présence ici. Et dis: Seigneur, pendant que je suis là, je suis convaincu que je suis béni. Je suis convaincu que ma portion est grande. Je suis convaincu que ma portion est double. Et je te bénis Seigneur, parce que ce n'est pas un homme que je suis venu rencontrer, mais c'est toi que je suis venu rencontrer. Dis-le au Seigneur et dis: Seigneur, merci. Merci de disposer mon cœur. Merci de disposer mon cœur. Et merci parce qu'une nouvelle page s'ouvre devant moi à partir de ce soir et à partir de toute cette saison. Seigneur, je crois que j'ai saisi les bénédictions que tu me réserves en 2019. Parce que tu auras permis que je sois enraciné dans ta connaissance. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'être là avec nous. Dans ta parole, tu dis: là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons que tu es là. Parce que c'est en ton nom que nous sommes venus. Merci Seigneur, parce que tu t'établis au milieu de nous. Et tu règnes en maître absolu au nom de Jésus. Amen. Veuillez nous asseoir. Depuis l'introduction avant-hier, notre bien-aimé qui nous a entretenus nous a parlé d'être fécond. Et ce que nous comprenions à partir de cette grande introduction, c'est que beaucoup de chrétiens ont passé beaucoup d'années à marcher à la suite du Seigneur, mais continuent de souffrir, continuent d'être des mendiants de la grâce de Dieu, au lieu d'être de véritables bénéficiaires de ce que le Seigneur a préparé pour eux dans son projet divin. Plusieurs, à un moment donné, dans la maison de Dieu, sont frustrés mènes une vie chétive. Parce que les promesses de l'Éternel ne se sont pas accomplies jusque-là. Ou encore parce qu'il y a plusieurs promesses qui tardent à s'accomplir. Et autour de nous, on peut voir des gens qui sont épanouis, des personnes qui peuvent témoigner aujourd'hui de ce que Dieu a fait. Et à une autre occasion, ils ont un nouveau témoignage. À un moment donné, ça fait comme si Dieu nous a oubliés. Ça fait comme si nous n'entrions pas dans le plan de Dieu. Pourquoi est-ce que ça se passe seulement dans les vies des autres et ça ne se passe pas dans nos vies à nous? Pourquoi est-ce que les gens ont beaucoup de choses à dire par rapport à ce que le Seigneur fait dans leur vie? Et à un moment donné, c'est comme si moi je n'ai jamais rien à dire. Et du coup, on vit une vie morose. On commence à se conformer aux situations. On subit même les circonstances de la vie au lieu d'agir ou donner une orientation à notre vie et changer le cours des choses. Pour être capable d'agir, il faut au préalable saisir la pensée de Dieu qui a dit de toi que tu es un dominateur. Dieu a dit de toi que tu as une autorité. Et c'est de par cette position de dominateur que tu peux être fécond, que tu peux multiplier. Amen. Nous allons relire le texte qui nous conduit tout au long de cette semaine. Sois fécond, Genèse 1, verset 28. Là, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécond, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur a créé le monde, mais l'homme vient en dernier lieu dans la création. Ce n'est pas que l'homme est le moindre de la création, mais il se trouve que l'homme a une position particulière au milieu de la création. Dieu a créé les arbres, il a créé les herbes. Il a créé les poissons. Il a créé tout ce qu'il pouvait créer dans le ciel et sur la terre. Mais en ce qui concerne chaque chose que Dieu a créé, on se rend bien compte qu'il ne leur a donné aucune fonction. Il n'a pas dit au poisson ce que le poisson devait faire ou ce que le poisson devait devenir. Il n'a pas dit à l'arbre ce que l'arbre devait faire ni ce que l'arbre devait devenir. C'est quand il crée l'homme, le dernier de la création, qu'il définit son cahier de charges. Il lui dit, soyez fécond, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et maintenant, qu'est-ce que deviennent les poissons et les oiseaux du ciel et les animaux qui ont été créés avant l'homme? Dieu dit à l'homme, dominez. Dominez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Ça veut dire que Dieu a donné tous les pouvoirs à l'homme. Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre où il est établi. Dieu lui a donné le pouvoir par rapport à la mer. Dieu lui a donné le pouvoir même par rapport au firmament. Ça veut dire que ce qui se passe en haut de moi, ça veut dire le firmament et puis le ciel, la voûte qu'on peut voir, est sous mon contrôle. Ce qui se passe dans la mer, dans les océans, dans les eaux, est sous mon contrôle. Ce qui se passe également sur la terre, c'est-à-dire les forêts, les bêtes des champs et tout le reste, Dieu dit, c'est moi qui devrais dominer sur eux. Et quand Dieu dit que je dois dominer et assujettir la terre, ça veut dire que j'ai un rôle particulier à jouer au milieu de la création. Je suis un peu comme le prolongement de la main de Dieu sur la terre. Et tu ne peux pas être fécond si tu ne domines pas. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler de domination, autorité ou féconder. Si je n'ai pas la domination, si je n'ai pas l'autorité, je ne peux féconder. Alléluia. Ça veut dire que tu es un dominateur. Ça, c'est ce que Dieu a dit de toi. Ce n'est pas un homme qui t'a donné ce titre, c'est Dieu qui a dit. Tu es un dominateur, tu as une autorité. Est-ce que tu peux le dire à toi-même? Je suis un dominateur. J'ai une autorité. Et tu vas le dire à ton voisin. Dis-lui, tu es un dominateur. Tu as une autorité. Voilà, si en se disant à lui-même, il doutait encore que ta parole le bouscule, afin qu'il croit qu'il est un dominateur et qu'il a une autorité. Amen. Dieu a mis en toi la capacité de féconder, mais pour sortir de la stérilité qui te caractérise, pour sortir de la stagnation dans laquelle tu vis depuis longtemps, pour sortir de la vie du surplace dans laquelle tu t'es confortablement assis, tu dois prendre conscience que Dieu t'a établi au-dessus de toutes choses. Je me souviens bien de la leçon des enfants à la maternelle. Quand on leur apprend sous, on met un ballon sur la chaise. On met un autre sous la chaise. Il doit dire, le ballon s'y est où? On dit sur la chaise. Après l'autre est où? Sous la chaise. Quand Dieu dit qu'il t'a établi au-dessus de toutes choses, ça veut dire que toute autre chose qui existe est sous toi. On comprend ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la domination? Selon le dictionnaire, la domination, c'est être maître de quelque chose. Être élevé au-dessus de quelque chose. Avoir plus de force, c'est manifester sa supériorité sur un certain nombre de choses. Alors, avoir la domination réfère à la position que tu occupes par rapport aux autres choses qui t'entourent. Avoir la domination, je vais le redire, réfère à la position que tu occupes par rapport aux autres choses qui t'entourent. Dominer réfère aussi à un certain nombre d'actions que tu poses. Ça veut dire que tu dois te mouvoir d'une certaine façon pour manifester l'autorité qui est en toi, pour manifester la supériorité que Dieu t'a donnée par rapport aux situations et par rapport aux réalités qui t'empêchent de féconder. Dans cette définition, on a deux aspects. On a la position et on a les actions. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu connais ta position de dominateur? Ça, c'est un. Est-ce que tu sais même que tu es un dominateur? Deuxième question. Est-ce que tu as déjà occupé la position de dominateur que le Seigneur t'a donnée? Peut-être tu sais, mais tu ne l'as pas encore occupé. Il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout. Et le Seigneur lui dit ce soir qu'il est un dominateur. Il y a quelqu'un qui est dominateur, mais qui n'a pas encore occupé la position de dominateur que le Seigneur lui a donnée. Et chaque fois que Dieu cherche à le bénir, Dieu ne le trouve pas là où il a établi. Chaque fois que Dieu veut le bénir en tant que dominateur, il ne le trouve pas là où il a établi. Et Dieu se tourne et dit, poste vacant. Poste vacant pour dire, je cherchais le dominateur que j'ai établi, je ne l'ai pas trouvé à la position qu'il devait occuper. Je suis retourné avec ma bénédiction, en attendant qu'il s'installe exactement là où je l'ai établi. Je prends un exemple simple. Il y a 20 personnes à Tamja. Parmi les 20, il y a 15 qui occupent la place de dominateur. Et il y a 5 qui sont là, comme ça. Et Dieu dit, pour les dominateurs, j'ai prévu 15 pick-up. Je vais aller à Tamja et je vais distribuer les 15 pick-up à ceux que j'ai établis comme dominateurs. Quand Dieu vient, il trouve 14, il ne trouve pas un. Tu crois qu'il va déposer en attendant que tu viennes prendre? Il va retourner avec sa pick-up en attendant que tu comprennes que tu es un dominateur et que tu dois être à ta place pour bénéficier de la bénédiction qui est la tienne. Plusieurs se retrouvent dans les rangs des esclaves. Plusieurs dans la maison de Dieu sont encore serviteurs. Ils sont même esclaves. Ils sont assujettis. Pourtant, la parole de Dieu dit d'eux que c'est eux qui doivent assujettir. Si tu continues d'être à la place d'esclave, je ne sais même pas si tu auras de récompense. Parce que j'ai failli dire que tu auras la récompense de l'esclave. Je crois bien que Dieu te cherchera, ne te trouvera pas et retournera avec sa bénédiction jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois être là où tu devrais être pour entrer en possession de cette bénédiction qui est la tienne. Amen. Combien de chrétiens ont quitté leur poste et se retrouvent là où Dieu ne les attend pas? Combien n'ont-ils pas abandonné leur position de dominateur pour prendre la place de serviteur et d'esclave? Et pendant qu'ils sont esclaves, ils subissent le monde, ils subissent toutes les catastrophes qui peuvent arriver au quotidien. Et ils sont dans subir, ils ne sont pas dans l'agir. Nous expliquons aux enfants on appelle ça quoi? La voix passive et la voix active. La voix active veut dire que c'est le sujet qui exerce l'action exprimée par le verbe. La voix passive veut dire que le sujet subit. On comprend un peu. Beaucoup de chrétiens sont dans la voie passive. Ils sont passifs. Au lieu d'être actif, tant que tu es passif, tu vas continuer de te plaindre. Tant que tu es passif, tu vas continuer de pleurer sur ton sort. Tant que tu es passif, tu ne vas pas féconder. Tu ne vas pas multiplier. Le Seigneur dit que tu dois être actif. Et définissant la domination tout à l'heure, j'ai parlé de maître. Le dictionnaire dit qu'un dominateur, c'est un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a le contrôle de quelque chose. Les choses marchent selon qu'il veut. Et si nous rentrons toujours dans la conception ancienne du maître, à l'école primaire, le maître, bref, il y a ceux qui ont fréquenté à l'école ancienne. On connaît ce que c'est que le maître. On ne blague pas avec le maître. On ne fait pas d'erreur avec le maître. On est rangé. Quand on rencontre même le maître en route, on se cache. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les enfants rencontrent leurs enseignants, ils saluent. Bonjour madame, bonjour monsieur. Quand nous on les voyait à l'époque, on fuyait. Parce qu'on ne doit pas rencontrer le maître sur sa route. Et le maître aussi, ça veut dire que c'est lui qui a la maîtrise de la chose. C'est lui qui tient la chose. Et c'est lui qui décide de ce que la chose doit être. Quelles sont les actions que tu poses en tant que dominateur pour féconder et pour multiplier selon que le Seigneur l'attend de toi? Est-ce que c'est se coucher et dormir? Je ne pense pas. Est-ce que c'est pleurer et se plaindre quand rien ne marche? Je ne pense pas. Est-ce que c'est s'asseoir sur sa grosse chaise de dominateur et croiser les pieds, croiser les mains et dire « Bon, Dieu m'a établi, maintenant je règne. » Je ne pense pas non plus. Est-ce que c'est croiser les bras et attendre que le miracle de Dieu s'accomplisse par rapport à ta situation? Non plus. C'est être aux commandes. C'est prendre les commandes de ma vie. C'est arracher les commandes de ma vie à la personne qui les détenait jusque-là. Et faire ce que je dois faire pour féconder et pour multiplier. Amen. C'est être aux commandes de ma vie et ne rien laisser qui ne soit dans le plan de Dieu pour ma vie. C'est attaquer quand il faut attaquer et c'est défendre quand il faut défendre. Le lion connaît sa position dans la forêt. Quand on lui a donné le nom de roi de la forêt, je ne pense pas que c'est lui-même qui s'est donné le nom. Je crois que c'est les autres animaux qui se sont vus, qui se sont observés et qui ont trouvé que non, le lion est au-dessus de nous. Il est roi de la forêt parce qu'il a su établir sa domination dans la forêt. C'est pourquoi il a eu le titre de roi. Il sait ce qu'il doit faire quand il a faim. Il sait ce qu'il doit faire en cas d'adversité. Dieu a clairement défini le cahier de charge de l'homme. En sorte qu'il ne s'embrouille pas et qu'il porte du fruit qu'il attend. Il lui dit, multipliez. Il lui dit encore, remplissez la terre. Et remplir la terre, c'est exercer sa domination en sorte qu'aucun espace ne soit étranger à ta vie. Rien dans le monde ne doit te surprendre. Parce que c'est toi qui décides de ce qui doit être. Rien dans ta vie non plus ne doit te surprendre ou te déstabiliser. Parce que c'est toi qui détiens le pouvoir de décision. Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir de décision? Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je crois. Assujettir la terre aussi, c'est amener tout sous son pouvoir. On dit encore sous. Ce n'est pas sûr. Rien n'est au-dessus de moi. Tout est sous moi. Beaucoup de vies dans l'église sont devenues stériles et infertiles. On a dit qu'on doit être fécond. Quand Dieu dit fécond, c'est parce qu'il savait qu'il y a des personnes qui devaient rentrer dans la situation d'infertilité, qui devaient être stériles et ne pas être capables de porter du fruit qu'il attend. Quand à l'hôpital, on dit qu'on stérilise un objet avant d'utiliser, ça veut dire qu'on va utiliser un antiseptique, n'est-ce pas? Qui va détruire tous les microbes, les anéantir en sorte qu'ils ne puissent nuire à personne. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont laissé Satan stériliser leur vie. Et rien ne peut produire. Les vies sont devenues stériles. Au lieu de mettre du compost, je ne sais pas ce qu'on a mis. Et le sol
sol ne produit plus. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur cahier de charge. Le monde les domine et les rend stériles. Leur propre chair est un problème pour eux. Satan est aussi un gros problème pour les chrétiens. Les circonstances et les saisons nous écrasent et nous empêchent de féconder. Nous allons aller dans ces différents et ces aspects. Nous allons commencer par la chair. Le Seigneur t'établit au-dessus de ta propre chair. Dieu veut que tu domines ta propre chair. Nous allons lire Romains 8, 5 à 8. Romains 8, 5 à 8. On a trouvé. Romains 8, 5 à 8. Qui trouve lit pour nous?
Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. En d'autres termes, ceux qui sont soumis à leur propre chair ne peuvent féconder. Ceux qui sont soumis au pouvoir de leur chair ne peuvent multiplier. Dans la chair, il y a la mort. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Si tu es attaché à ta chair, ce que tu récoltes, c'est la mort, c'est-à-dire la stérilité. Alors, si je suis capable de dominer ma propre chair, de l'assujettir, ça veut dire que je communique la vie à mon corps et à toutes les dimensions de mon être. Ça veut dire que je suis fécond. Mais si je suis soumise à la chair, je ne saurais être fécond. Parce qu'il dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Et il dit d'ailleurs que ceux qui s'affectionnent des choses de la chair sont ennemis de Dieu. Ça, c'est dans votre version. On dit qu'on est ennemi de Dieu. Devenir ennemi de Dieu, ça veut dire que je ne rentre pas dans le plan de Dieu pour ma vie. Parce que je laisse ma chair me contrôler. Et quand on parle de l'affection de la chair, c'est tout ce que la chair réclame. La chair nous réclame trop de nourriture. Et quand on parle de jeûne, il y a certaines personnes qui partent étant très fâchées. Parce qu'on a déjà décrété qu'ils vont passer une journée sans manger. La chair aime aussi trop dormir. Pourtant, Dieu nous attend au combat dans beaucoup de moments de prière. N'est-ce pas? La chair aime ce qui est agréable. Mais ce n'est pas tout ce qui est agréable qui plaît à Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est agréable qui nous permet d'être épanouis. Ce n'est pas tout ce qui est agréable qui nous donne la possibilité d'être fécond. Un chrétien normal doit être capable d'assujettir sa chair. De dire à sa chair, je ne te donne pas ce que tu me réclames. Tu dois pouvoir dire à ta chair, ventre, tu as faim, mais maintenant je ne te donne pas à manger. Parce que je suis établi au-dessus de toi. Et maintenant là, tu restes affamé. Ça, c'est possible. Pour être fécond, il faut être capable de dominer sa chair. Deuxièmement, le chrétien doit avoir la domination sur le monde. Dieu a dit de nous, ses enfants, dans Jean 17, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Lui aussi était dans le monde, mais n'avait jamais rien fait de ce qui ressemble à ce que les gens font dans le monde. Moi aussi, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ça veut dire que quand on regarde un mondain, il y a une différence entre lui et moi. Le monde a beaucoup de séductions, beaucoup de plaisirs qu'il offre à l'homme. Les plaisirs des yeux, les plaisirs du ventre, les plaisirs des oreilles, les plaisirs de la chair et bien d'autres choses. Et de temps en temps, on veut sentir son corps vibrer. On veut sentir sa chair réagir d'une certaine façon. Et ça pousse beaucoup à entrer dans les compromissions. Et du coup, on va faire comme les autres. On va aller en boîte de nuit. On dit qu'il faut s'éclater. On dit qu'il faut se réjouir.
Et on va aussi voir les gens qui rentrent dans les traditions. Ah, je suis quand même issu d'une tribu. Et la tribu dont je suis issu a des réalités, a ses traditions. Pourquoi vous voulez absolument me couper de ce que je dois être? Un peu comme si être bamileke veut dire faire les funérailles. C'est ce que beaucoup de gens disent, même dans la maison de Dieu. Ils disent que si Dieu a voulu qu'ils sortent d'une tribu particulière, alors ils doivent s'arrimer à tout ce qu'on fait dans leur tribu. Satan est partout et il trouve les moyens de séduire les gens. Si tu aimes le monde, ça veut dire que tu as perdu la domination sur le monde. Si tu es attaché au monde, ça veut dire que le monde te tient. Et tant qu'il te tient, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu et tu demeures infertile. Si tu veux féconder, la parole de Dieu te dit de fuir le monde et de nager à contre-courant. Et la parole de Dieu dit encore quelque part, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu es l'esclave de ce qui a pris le dessus sur toi. Pourtant, Dieu avait dit que c'est toi qui prends le dessus sur tout. Mais maintenant, tu décides d'être l'esclave du monde parce que tu ne veux pas qu'on te taxe de n'importe quoi. Tu décides d'être l'esclave du monde parce que tu ne veux pas que les gens disent de toi que tu es devenu témoin. Tu décides d'avoir, je ne sais pas, un genre d'amis parce que quand même, on est avec eux tous les jours, on ne peut pas faire sans eux. C'est faux. Le Seigneur dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il faudrait bien qu'un païen en te voyant vivre, puisse se poser la question de savoir comment toi tu fais pour t'en sortir. Tandis que lui, il a l'impression qu'il faut faire tout ce que les gens font pour s'en sortir. La parole de Dieu dit encore, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas dans tout ce que le monde nous propose que nous trouvons notre joie. Amen. L'autre élément, c'est que nous devons être capables d'avoir la domination sur Satan. Satan, c'est le plus gros ennemi de toute la terre, mais c'est comme si c'est aussi un gros ennemi pour les chrétiens. La parole de Dieu dit de Satan, après la déchéance dans le jardin d'Éden, qu'il a été précipité sur la terre. Et il est écrit dans Apocalypse 12, verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Satan est descendu sur la terre avec une grande colère. Il veut tout détruire, il veut tout dévorer et il veut même détruire les enfants de Dieu. Mais ce que Dieu dit de toi dans cette situation, c'est que c'est toi qui as le dessus sur Satan et sur ses démons. Et il le dit dans Luc 10, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 10, verset 19? On connaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu dit qu'il t'a donné quoi? T'a donné le et qui les gens ne veulent pas prendre le pouvoir. Dieu dit voici, je vous ai donné le pouvoir de faire comment? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Est-ce qu'il a dit que certaines choses vont vous nuire? Il a dit rien. Dieu dit qu'il t'a investi d'une autorité qui te permet de marcher sur les forces sataniques. Les serpents et les scorpions représentent Satan et toute la cohorte de démons qu'on peut imaginer. Il dit que toi tu as l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que tu n'as pas à craindre Satan. Pourquoi Satan doit continuer de te dominer? Pourtant, c'est que c'est toi qui tiens Satan. C'est Satan qui est sous tes pieds. Il n'est pas au-dessus de toi pour pouvoir t'atteindre. Et dans Éphésiens 6, la parole de Dieu définit clairement les armes du combat, les armes avec lesquelles nous devons combattre Satan et ses démons. Il dit qu'ils sont sous tes pieds et il définit toutes les différentes armes. La justice, la vérité, la cuirasse de ceci, le casque du salut, ainsi de suite. Satan et ses démons sont sous tes pieds. Ça veut dire que tu peux les écraser et tu peux les anéantir. Si jusqu'ici c'est eux qui ont pu t'écraser et t'anéantir, ça veut dire que tu as perdu la position de dominateur. Tu as pris une autre position. Un dominateur que tu es et que je suis marche sur Satan. Satan ne marche pas sur moi. Ça veut dire que je me couche dans ma maison et je dors en paix. Je n'ai pas peur de ce qui va se passer dans le plafond la nuit. Je n'ai pas peur de mauvais rêves. Les gens ont des visions bizarres. Je commence à voir les choses bizarres. Vraiment, aidez-moi dans la prière. Tu as perdu ta position. C'est ça qui te fait chercher le secours partout. Si tu étais là où tu dois être, Satan devait être sous tes pieds. Il ne devait pas être au-dessus de toi. Tu as le pouvoir de renverser Satan et ses démons. Même Satan sait qu'il ne peut rien contre un enfant de Dieu. Mais de temps en temps, ce qu'il fait, c'est qu'il vient tâter le terrain pour voir s'il y a une faille. Et quand il trouve la faille, il entre. Quand il a trouvé la faille, il est entré. Ça ne veut pas dire que tu es vaincu. Ça veut tout simplement dire que tu dois encore te ressaisir. Ouvrir les yeux par rapport à ce qui s'est passé et reprendre ta position. En sorte que lui, il retourne à sa place. Quand il est sous tes pieds, tu ne lui donnes même pas l'occasion de réagir. Amen. Nous allons lire Psaume 18. Le Psaume 18, versets 38 à 43.
On a trouvé Psaume 18, 38 à 43. Bien, si on n'a pas trouvé, je vais lire pour nous.
Amen. Il dit, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Il n'a pas dit, je fuis mes ennemis. La plupart du temps, nous fuyons Satan. Il dit, je les poursuis. Ça veut dire que c'est lui qui a le pouvoir contre ses ennemis. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent où? Sous mes pieds. On a encore la position de sous. Il tombe sous mes pieds. Alors, moi, je suis au-dessus de mes ennemis. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Amen. Psaume 18, 108 à 43. Je ne fuis pas mes ennemis. Moi, je les poursuis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir complètement exterminés. Tu es un dominateur. Amen. En même temps, Satan s'arrange à assujettir des familles, des territoires, des tribus en général. On a souvent entendu parler des antécédents familiaux ou bien des liens. Bon, entre guillemets, les liens. En réalité, le monde satanique est organisé en sorte que Satan a donné à un démon une partie du territoire qu'il doit contrôler. On va entendre que les Bamiléké sont hypocrites, ils sont égoïstes. On va entendre que les Bétis, ils sont friands de sexe. Ils vivent beaucoup dans l'impudicité. On va entendre que les tels sont caractérisés par ceci. Quand quelqu'un vient de répondre, on commence à avoir peur de lui. Parce qu'on sait que le germe de la délinquance est en lui. Qu'il le veuille ou pas, il naît avec. Ça ne dépend pas de ses parents, ça ne dépend pas de sa famille. Ça dépend du démon qui a été relâché sur ce territoire-là pour le contrôler. Et c'est ce qui peut caractériser plusieurs vies même dans l'église. Il y a des personnes qui portent encore avec eux ce genre de réalité. Dans ma famille, on se marie tard. Chez nous, tout le monde a mal aux yeux. Dans ma famille, les gens, tout le monde souffre du mal gastrique. De génération en génération, on se rend compte que des personnes sont asservies. Il y a un certain nombre de malédictions qui suivent des générations entières. Ce n'est pas de la volonté de vos parents. C'est Satan qui s'est levé et a dit, je tiens ceux-ci captifs. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte que c'est une réalité qui est propre à ma famille et je vis avec? Est-ce que j'accepte que c'est une réalité qui est propre à ma tribu et je fais avec? Est-ce que je confesse que je ne peux jamais me marier avant 30 ans? Parce que chez nous, les gens se sont toujours mariés au-delà de 30 ans. Est-ce que je confesse que le mal gastrique dont je souffre, je vais même en mourir un jour parce que les gens en ont toujours souffert dans ma famille? Jamais. Quand le Seigneur m'éclaire et me donne la position de dominateur, ça veut dire que désormais je prends le contrôle en ce qui concerne ma famille. Je déclare que cette malédiction n'a plus cours dans ma famille et elle ne peut même pas agir sur ma propre vie parce que je suis un dominateur. On a encadré beaucoup de personnes, même dans la maison de Dieu, qui passent par ces situations. Les vies ne sont pas fécondes parce qu'il y a quelque chose qui tient les familles, il y a quelque chose qui tient les foyers. Et j'en connais des cas. Il y a une maman ici, on a prié pour ses frères. Chez eux, aucun homme n'enfante. Toutes les femmes qui sont mariées ont enfanté, mais aucun homme n'enfante. C'est terrible. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu, mais d'un homme à l'autre, on s'est rendu compte que dans leur foyer, il n'y a pas d'enfants. Et ne connaissant pas le Seigneur, ils sont allés chez les marabouts. Et tous les jours, ils sont chez les marabouts, en train de chercher la solution à ce problème d'infertilité. C'est le cas un peu partout, mais Dieu a dit que j'ai la domination. Je dois assujettir ce genre de réalité qui caractérise ma vie, ou qui caractérise ma famille, ou qui caractérise ma tribu. C'est des choses qui ne doivent plus exister parce que j'ai l'autorité, je suis dominateur. Nous devons aussi être capables de dominer la peur. Ce qui nous rend stérile, ce qui nous amène à ne pas multiplier, c'est la peur. On ne fait pas entièrement confiance à Dieu. Dieu a dit des choses en ce qui nous concerne. Il a dit, je te bénis. Dieu a dit, j'ai formulé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Mais on a toujours peur de ce qui va nous arriver. Il y a des gens qui dorment en ayant peur de ce que la nuit va être. Il y a des gens qui se lèvent en ayant peur de ce que la journée sera. Quand tu ne fais pas confiance à Dieu, c'est normal que tu aies peur. Dès que tu vas rencontrer un genre de personne sur ta route, tu vas commencer à avoir peur. Et tu vas aussi entrer dans la conception mondaine des choses. Ah, j'ai cogné mon pied gauche, ça veut dire quelque chose. Le sang a tapé sur ma main droite quelque part, ça veut dire que quelqu'un va mourir. Mon œil ne fait que frapper depuis 3 jours. Ça veut dire que quelqu'un va mourir dans la famille. Il y a le chat qui ne fait que crier autour de la maison. Ça veut dire qu'un malheur va arriver. On vit dans le monde des superstitions. On pense toujours que le malheur est en route, en train d'arriver. Et on dort sans la paix parce qu'on se dit que quelque chose de grave va se passer au milieu de la nuit. Le Seigneur te demande de dominer la peur, d'affronter les situations qui se présentent à toi afin d'être vainqueur. Le Seigneur dit dans Romains 12 qu'il renouvelle notre intelligence. Renouveler ton intelligence, ça veut dire que tu ne vois plus les choses comme tout le monde. Tu ne conçois plus les choses comme n'importe qui. Tu vois les choses désormais selon le regard de Dieu. Si Dieu dit ta journée est bénie, alors elle est bénie. Quel que soit ce que tu rencontres sur ta route, ta confession ne doit pas changer. Ta journée est bénie. Il a dit ta famille est bénie, alors ta famille est bénie. Il a dit tu es fécond, alors tu es fécond. Il a dit tu vas multiplier, alors je multiplie. Je ne tiens pas compte de ce qui s'est passé le matin ou de ce qui s'est passé le soir. Je dois donc être capable de saisir la pensée de Dieu pour féconder. Quand l'ennemi s'attaque à nos pensées, c'est parce qu'il sait qu'en saisissant nos pensées, il va totalement nous déstabiliser. Et quand il te déstabilise, ça veut dire qu'il a pris le dessus. Tu vas voir une mère qui est malade depuis 6 ans, être une maladie. Et les médecins ont dit que d'ailleurs, c'est le genre de maladie qui conduit à la mort. Parce qu'on ne trouve pas de traitement. Malgré toutes les prières qui vont être faites, ce qu'elle sait au fond d'elle, c'est que les docteurs ont dit qu'elle va mourir. Dans la parole de Dieu, on a le cas de Paul. Paul était un dominateur. Il avait une mission bien précise à accomplir. Au milieu des persécutions, Paul continuait son œuvre. Il était en prison. Il a continué son œuvre. La vie de Paul a fécondé des générations et des générations de chrétiens. Parce qu'il était un dominateur, il savait quelle était la mission qu'il devait accomplir. Mais quand nous traversons une seule persécution, tout s'arrête. Du coup, tout s'arrête. Les portes se sont fermées. Il n'est plus possible d'avancer. Il a été persécuté, il a été fouetté, il a été lapidé, il a été mis en prison. Mais sa vie a été véritablement un levain que le Seigneur a utilisé pour féconder beaucoup d'autres vies. Amen. Nous devons être capables de dominer les saisons et les circonstances. Le dominateur que tu es doit être conscient que la fécondité que Dieu attend de lui, ça ne dépend pas des saisons, ça ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de ce que Dieu a dit de toi. Dieu a dit tu seras fécond, alors tu es fécond. Que le Cameroun monte, qu'il descende, le Seigneur a dit je serai fécond. Et je saisis la parole de Dieu, je marche conformément à ce que le Seigneur a dit. Je ne me fie pas aux saisons pour savoir si le plan de Dieu va s'accomplir dans ma vie ou pas. Je ne me fie pas aux circonstances autour de moi pour savoir si ce que Dieu a dit de moi va s'accomplir. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Nous marchons par la vue, nous ne marchons pas par la foi. Et c'est ce qui fait que devant chaque situation, on soit en train de trembler. On soit en train de changer les plans, on soit en train de changer les projets. Parce que nous avons laissé nos yeux nous influencer. Nous avons laissé ce que nos oreilles ont entendu nous influencer. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17, le Seigneur décrit la vie de Élie. Élie était un grand prophète de l'Éternel. À un moment donné, à cause de l'incrédulité et de la méchanceté au milieu du peuple d'Israël, Élie a dit, je suis prophète de l'Éternel. Il n'y aura pas de pluie dans le ciel pendant 7 ans. Il ne pleuvra pas pendant 7 années. Quand il le disait, vous croyez qu'il n'avait pas pensé à sa propre situation? Je me suis bien posé la question. Quand il dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant 7 années, lui-même il va vivre de quoi? Lui-même il va manger quoi? Lui-même il va boire quoi? Il ne marchait pas par la vue, lui marchait par la foi. Il était un dominateur et il savait que même s'il n'y a pas la pluie au ciel pendant 7 ans, il ne mourra pas. Il ne va pas manquer de nourriture, il ne va pas manquer d'eau. Et ces 7 années, pendant ces 7 années, Élie n'a pas manqué de son pain. Élie n'a pas manqué d'eau. Quand Élie venait à manquer du pain, le Seigneur lui a dit, va vers les torrents de... J'ai oublié le nom. Je vais envoyer les corbeaux te nourrir. Les corbeaux ont nourri Élie pendant que le peuple mourait de faim et de soif. Il était au bord d'un torrent. Il buvait les eaux du torrent. Et la parole de Dieu dit que les corbeaux venaient avec du pain et de la viande le matin, de la viande et du pain le soir. Mais le peuple d'Israël était dans une famine qui avait déjà décimé beaucoup de familles. Quand les eaux du torrent ont séché, Élie certainement a été déjà inquiet dans son cœur à un moment donné. Dieu lui dit, ça ne suffit pas, va à Sarepta, je t'envoie vers une veuve. La veuve là va te nourrir. Il est allé à Sarepta. Et malgré l'incrédulité de la veuve au départ, il a réussi à la convaincre. L'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. L'Éternel est vivant. Jusqu'à ce que les 7 années soient écoulées et qu'il pleuve sur la terre. Et la parole de Dieu s'est fidèlement accomplie. L'huile n'a pas manqué dans la maison de la veuve. La farine n'a pas manqué jusqu'à ce que les 7 années s'écoulent et que la pluie tombe sur la terre en Israël. C'est parce qu'il était un dominateur. Il dominait les saisons et il dominait les circonstances. J'ai envie de dire à un agriculteur, ce que tu vas récolter ne dépend pas des signes du ciel. Ce que tu vas récolter en 2019, ça ne dépend pas de s'il pleut en janvier ou s'il ne pleut pas en janvier. Parce qu'il y a déjà beaucoup de confessions négatives. Quand il pleut en janvier comme ça, ça veut dire qu'on va entendre la pluie en mars, on n'aura pas de pluie. Ça ne dépend pas de ça. Dieu a dit que tu es fécond. Ça veut dire que tu vas porter du fruit. Dieu a dit que la fécondité qui est en toi, ça ne dépend pas des saisons, ça ne dépend pas des circonstances. Dans Genèse 13, Abraham doit se séparer de son frère Lot à un moment donné. La parole de Dieu dit qu'il y a eu une querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Et Abraham dit à Lot, pour qu'il n'y ait pas de querelle entre tes bergers et mes bergers, ce que je propose, c'est que nous nous séparions. Choisis où tu veux aller et moi je vais prendre ce que tu as laissé. Et la parole de Dieu dit que l'autre s'est tourné vers le Jourdain il a vu la plaine du Jourdain qui était verdoyante. Et il a dit, Abraham, moi je m'établis ici. Ça suppose clairement qu'il a laissé le sol aride à Abraham. Il a laissé certainement les montagnes, là où il n'y a pas d'eau, à Abraham. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à Abraham? Pendant que l'inquiétude veut ronger son cœur, le Seigneur lui dit, Abraham, tout ce que tu vois là est en ta possession. Tout ce que tu vois là, je te donne. Et je vais te multiplier. Je vais multiplier ta descendance en sorte que si un homme est capable de compter la poussière du ciel, du sol, il pourra compter ta descendance. Mais il n'est pas possible pour l'homme de compter la poussière. Ça veut dire que ta descendance sera innombrable. Et il dit à Abraham, lève-toi, parcours le nord. Abraham parcourt le nord. Parcours le sud, il parcourt le sud. Vas-y vers le midi, il va. Va vers l'est, il va. Parcours l'ouest et il va vers l'ouest. Et Dieu dit, tout ça c'est ta possession. Quand le Seigneur dit à Abraham, lève-toi et parcours, ça veut dire qu'Abraham est en train de prendre possession de ce territoire qui est le sien. C'était un lieu aride, mais la bénédiction d'Abraham n'a pas manqué parce qu'il a établi sa domination sur le territoire qui était le sien. Nous avons beaucoup de territoires que le Seigneur nous a donnés, mais nous n'avons jamais pris possession de quoi que ce soit. Tu souffres dans ton foyer, mais tu n'as pas pris possession de ton foyer. C'est ça le problème. Dieu a pris la peine de dire à Abraham, parcours le nord, va vers le sud, va vers l'est et va vers l'ouest. Parce que tout ça, je te donne. Je te donne ça, ça devient ta possession. Mais maintenant, tu souffres parce que tu n'as pas pris possession de ton héritage. Tu souffres parce que tu n'as pas pris possession. Tu n'as pas dominé sur ce que le Seigneur t'a donné comme bénédiction. C'est pourquoi tu n'es pas fécond. C'est pourquoi tu ne multiplies pas. C'est pourquoi c'est comme si c'est la stagnation qui perdure dans ta vie. Abraham portait en lui la semence de Dieu. Et là où il allait, sa semence fécondait et il y avait multiplication. Amen. Tonton Emma nous a parlé de la semence ici. Tout commence par la semence. Si tu portes en toi la semence de Dieu, quel que soit le type de terre où tu t'établis, tu vas être fécond et tu vas porter du fruit. Amen. Et la condition sine qua non pour que cela soit rendu possible est écrite dans Jérémie 17. Jérémie 17. Au verset 8. Jérémie 17, verset 8. Je lis pour nous. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. Dieu parle de toi, Dieu parle de moi. Au verset 7 d'abord, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est espérance. Cet homme qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux. Est-ce que tu es planté près des eaux? Et l'eau dont il est question, c'est la parole de Dieu, c'est la présence permanente de Dieu dans ta vie. Tu es un dominateur si tu es planté près des courants d'eau. Et le psaume 1 peut encore le dire. Celui qui marche conformément à la parole de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Amen. Il donne son fruit en sa saison. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la sécheresse. Pourquoi dois-tu connaître la sécheresse quand l'Éternel dit, je suis ta bannière? Pourquoi dois-tu connaître la sécheresse quand l'Éternel dit, je viens à ton secours? Pourquoi dois-tu connaître la sécheresse? Pourquoi dois-tu passer des années dans la stérilité et dans la stagnation quand l'Éternel dit, lève-toi et prends possession de ce que je t'ai donné? Alléluia. Nous allons nous lever et prier. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur et que tu dises à Dieu merci parce que je ne suis pas n'importe qui. Au milieu de la création, dis parce que je suis particulière. Au milieu de la création, je te bénis parce que tu m'as mis à part. Seigneur, j'ai été élu de manière particulière, tu m'as élu et tu as fait de moi un dominateur. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour la domination que tu me donnes. Merci pour l'autorité que tu me donnes. Merci parce que je suis investi d'une autorité. C'est une autorité qui vient de toi. Merci parce que je suis investi de la domination. C'est la domination que toi-même tu me donnes. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné une position particulière. Je te loue, ô Éternel, parce que tu m'as établi au-dessus de toute la création. Je te bénis parce que je domine le ciel. Je te bénis parce que je domine la terre. Je te bénis parce que je domine les océans. Seigneur, il n'y a rien qui soit au-dessus de moi. Parce que c'est toi qui as dit. Seigneur, ça ne dépend pas de ce que je vois. Ça ne dépend pas de ce que je pense. Mais ça dépend seulement de ce que tu as dit. Seigneur, dis à Dieu, je veux prendre possession de mon héritage. Seigneur, je veux devenir fécond. Seigneur, je veux devenir fécond. Je veux prendre possession de ce que tu m'as donné. Seigneur, je veux pouvoir multiplier. Pendant cette année 2019, je dis non à la stagnation. Je dis non à la stérilité dans ma vie. Je dis non à la vie de surplace. Et je déclare que j'étends mes racines. Mes racines s'étendent. Seigneur, mes racines s'étendent vers le courant que tu es. Mes racines s'étendent. Et je puise en toi, ô Éternel, la source nécessaire, l'aliment nécessaire pour féconder et pour multiplier au nom de Jésus. Dis Seigneur, je déclare que Satan et ses démons n'ont plus de pouvoir sur moi. Je résiste à leur action dans ma vie. Je résiste à l'action de Satan et de ses démons dans ma vie. Je résiste, Seigneur, à la puissance des circonstances qui ont souvent, Seigneur, eu raison de moi. Dis, Seigneur, je refuse de me fier aux saisons. Je refuse de me fier aux réalités de mon pays. Et je crois que je suis fécond au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Dis, Seigneur, je veux apprendre à comprendre ta pensée en ce qui me concerne. Je veux saisir tes promesses et ne pas me laisser influencer par quoi que ce soit qui se passe autour de moi. Dis, Seigneur, je crois que même si le Cameroun va mal, ma destinée dans ta main n'a pas changé au nom de Jésus. Je crois que si jusqu'ici mon foyer allait mal, Seigneur, c'est parce que je n'avais pas pris autorité. C'est parce que je n'avais pas saisi un certain nombre de choses. Maintenant, je m'établis sur mon foyer. Seigneur, je déclare que tout ce que j'ai connu jusque-là, qui m'ont amené, Seigneur notre Dieu, dans la stérilité, change au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes les situations qui embarrassent ma maison, sur toutes les situations qui déstabilisent ma famille. Je m'établis au-dessus de tout ce qui peut embarrasser la vie de mes enfants. Et je déclare que le cours des choses change en ce qui les concerne au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que dans mon lieu de service, je prends autorité. Seigneur, je suis établi au-dessus de tout ce qui peut se faire, au-dessus de tout ce qui peut se décider. Et les choses ne marchent pas selon que les hommes le veulent, mais selon que moi je veux au nom de Jésus. Parce que tu as dit que c'est moi qui tiens le contrôle. Seigneur, je déclare que je tiens les commandes. Je tiens les commandes à mon lieu de service et je deviens ce que tu veux que je sois au nom de Jésus. Je tiens les commandes en ce qui concerne mes activités et je déclare que mes activités prospèrent au nom de Jésus. Je prends les commandes en ce qui concerne l'héritage que tu as défini pour moi et je déclare que je prends possession de chaque héritage, Seigneur, que tu as préparé pour moi au nom de Jésus. Seigneur, je parcours ma vie. Bien-aimé, parcours ta vie. Dis, Seigneur, je parcours toutes les dimensions de ma vie maintenant. Et je prends possession de chaque dimension de mon être maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tout est sous mon pouvoir. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Tout est sous mon pouvoir. Même la maladie est sous mon pouvoir. Seigneur, n'importe quoi qui se passe dans ma famille, les réalités de ma famille, tout est sous mon pouvoir désormais au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a plus de stérilité possible dans ma famille parce que je suis fécond. Je déclare qu'il n'y a plus de stérilité possible parce que je domine. Je domine au nom de Jésus. Dis Seigneur, je m'établis. Je m'établis. Je m'établis partout où tu veux que je sois. Et je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis fécond. Je déclare que je multiplie au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, je ne subirai plus les circonstances. Je refuse de subir. Je refuse de subir. Désormais, c'est moi qui agis. Je refuse d'accepter que les choses soient comme elles sont. Et je déclare que je change le cours des choses. Parce que tu m'as donné le bâton de commandement au nom puissant de Jésus. Si ta vie spirituelle a été stérile jusque-là, dis Seigneur, maintenant je confie. Je crois que tu domines. Même dans ma vie spirituelle, Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit au nom de Jésus.
Je veux m'élever au-dessus de tout ce qui me fait stagner. Je m'élève au-dessus de tout ce qui me bloque. Je m'élève au-dessus des blocages. Je m'élève au-dessus de toutes les barrières qui se dressent devant moi. Et je déclare que je suis fécond. Je domine toutes les situations négatives qui peuvent arriver au nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit de moi, Seigneur, que je suis un dominateur. Parce que tu as dit que j'ai l'autorité. Dis que désormais, tout est sous moi. Je marche sur les situations. Je marche sur les forces des ténèbres. Je déclare que même si c'est la mer rouge qui se dresse devant moi, m'empêchant d'entrer dans la terre promise, maintenant je déclare qu'elle se divise en deux. Et j'avance jusqu'à ce que je possède totalement mon héritage au nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, je crois que je suis béni. Je suis béni parce que tu as dit que je suis béni. Seigneur, je suis un dominateur parce que tu as dit que je suis un dominateur. Je suis assujetti parce que tu as dit, Seigneur, que j'ai le contrôle de toutes les situations. Je domine parce que tu as dit que c'est moi qui domine. Je déclare que le ciel, Seigneur notre Dieu, c'est moi qui décide de ce qui doit être. Je déclare que je domine la mer, je domine la terre, les animaux et tout ce qui se met sur la surface de la terre au nom de Jésus. Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, ma vie est complètement transformée. Dis, Seigneur, je crois que ma vie est transformée. Ma vie est transformée. Ma vie est complètement transformée au nom de Jésus. Parce que je sais quelle est désormais ma position. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Nous célébrons ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui as dit de nous que nous sommes des dominateurs. C'est toi qui as dit que nous avons l'autorité. Merci, Seigneur, pour la position privilégiée que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes des privilégiés parce que nous sommes des dominateurs. Merci, Seigneur, parce que rien ni personne ne viendra à nous faire buter de la position que tu nous donnes. Seigneur, merci. Parce qu'en tant que tel, nous sommes féconds, nous portons du fruit et nous multiplions dans toutes les dimensions de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada